C'était Son de las Barricadas, qui était une chanson populaire de la région de Oaxaca, suite aux révoltes qu'il y avait eu en 2006.
Oui, dans le fond, au cours de la même période de temps, il y a eu aussi des insurrections, en fait, contre la brutalité gouvernementale à San Salvador Atenco. Puis il y a un excellent film qui expose bien les dynamiques de répression systématique du gouvernement, tandis qu'à l'origine, ça a été un soulèvement qui a été causé par le gouvernement, par son attitude en général. Donc, on a terminé pour cette semaine, pour la chronique musicale historique de patrimoine anarchiste ou révolutionnaire. On s'en va faire un tour du côté de l'histoire encore, du côté des syndicats révolutionnaires. On va parler de la IWW. La IWW, c'est la Industrial Workers of the World. Ça a été un syndicat international qui a été fondé aux États-Unis en 1905, dont le siège est à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. À son apogée, en 1923, l'organisation disait compter environ 100 000 membres actifs et il pouvait compter sur le soutien de 300 000 travailleurs et travailleuses. Le nombre d'adhérents a beaucoup baissé après une scission en 1924, qui était à la fois le résultat du conflit interne et de la répression gouvernementale. Les conflits internes, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui voulait convaincre les membres. En fait, les membres de la IWW, on les appelait les Woobleys. Puis, ils voulaient convaincre les Woobleys que la seule action révolutionnaire pertinente était celle dans laquelle devait s'inscrire. En fait, il fallait s'inscrire dans le Parti socialiste du travail d'Amérique, dans le fond. Puis c'est le président de cette organisation-là essayait de convaincre la IWW de s'inscrire dans ce parti-là, mais ils n'ont pas accepté. D'ailleurs, même aujourd'hui, c'est interdit de faire valoir du travail partisan, que ce soit ouvertement, que ce soit simplement anarchiste. J'ai l'impression que ça ne serait pas permis au sein de la IWW. Du côté de la répression gouvernementale, ben, ça continue encore aujourd'hui. Dans le passé, il y a eu énormément de répression. Hein. C'est vraiment pas des belles histoires, l'histoire de la répression de la IWW. Hein. C'est atroce.
On peut d'ailleurs voir sur YouTube plusieurs vidéos de propagande anti-syndicaliste américaine. Puis, de manière générale, on mettait les syndicalistes de la IWW dans le même panier que les révolutionnaires de Russie, puis que les autres bandits. C'est vraiment assez ridicule. On voit qu'il y avait vraiment une campagne de démonisation.
Puis, dans le fond, pour vous donner un exemple, là, c'était du lynchage à tour de rôle. Là. Donc, ils ciblaient des personnes populaires, puis ils les lynchaient au coin de la rue. Là. C'était vraiment une répression systématique. La IWW a été populaire à partir de 1906 environ, où est-ce qu'ils ont fait un rassemblement contre les arrestations d'un de leurs membres, puisque à un certain moment donné, ou à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui faisait un discours dans la place publique, il était arrêté, systématiquement arrêté et emprisonné. Donc, un des slogans de la IWW, c'est « An injury to one is an injury to all ». Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous, qui faisait écho à l'idéal des chevaliers du travail du 19e siècle. « An injury to one is the concern of all ». Une attaque contre l'un d'entre nous est l'affaire de tous. Les chevaliers du travail, « Knights of Labor », il y en avait au Québec aussi. Puis on peut se rappeler qu'il y avait des idées économiques proches de celles des anarchistes de l'époque. En fait, à chaque fois qu'il y avait des arrestations de personnes qui parlaient en public, il y avait beaucoup, beaucoup de leurs collègues de la IWW ou simplement des travailleurs soldats qui venaient pour se faire arrêter eux aussi, et elles aussi, pour dans le fond, se faire arrêter jusqu'à ce que ça coûte trop cher à la police municipale qui a arrêté leur ami, leur camarade, donc pour qu'ils le rejettent par après. Donc, c'était un peu une des manières qui ont une des choses qui ont popularisé le plus la IWW. Est-ce que la IWW est un syndicat anarchiste? Non. Donc, mais c'est pas un syndicat qui est réformiste. En fait, la IWW fut créée à cause de la conviction de beaucoup de syndicalistes, socialistes, anarchistes et militants radicalisés que l'American Federation of Labor avait complètement, dans le fond, désabusé des syndicats habituels. Dans le fond, la AFL, American Federation of Labor, avait vraiment, selon eux, échoué dans leur tâche d'organiser la classe ouvrière américaine, puisque seulement 5% environ des travailleurs et des travailleuses appartenaient à un syndicat en 1905. Une des contributions majeures des IWW au mouvement ouvrier et plus largement au mouvement social, c'est la lutte, c'est d'accepter dès sa création tous les travailleurs et donc de syndiquer les femmes, les immigrés et les Afro-Américains. Beaucoup des premiers adhérents étaient des immigrés et comme Joe Hill, par exemple. Joe Hill qui était qui a écrit beaucoup de chansons, des classiques de l'époque qui sont restés au sein de la tradition ouvrière. Et Joe Hill a été aussi présent dans le mouvement surréaliste, si je ne me trompe pas. Le principe de Joe Hill, je pense que c'était de créer une culture subversive au sein, une culture de résistance au sein de la classe ouvrière pour, dans le fond, unir généralement, plus largement, l'ensemble des travailleurs autour de valeurs communes. La IWW, ça l'a fait le tour du monde. Il y a des syndicats affiliés à la IWW en Finlande. Il y en a aussi en Espagne, si je ne me trompe pas. Il y en a au Canada. Dans le fond, le principe de la IWW, un des slogans, c'est « One big union ». « One big union », dans le fond, c'est « Peu importe c'est quoi ton champ de travail, peu importe c'est quoi ton métier, tu peux te syndiquer au sein du même syndicat. » Et la structure est ultra égalitaire au sein de la IWW. Il y a une rotation. Si je prends comme exemple le cas du syndicat de la Panhandlers, je pense que c'est des boulangers, Panhandlers. T'as-tu une idée, Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire, Panhandlers?
Bonne question, mais si je me fie, c'est des manipuleurs de crayons.
De pain. En tout cas, c'est des gens, je pense, qui vendent du pain, des personnes sans-abri à Ottawa qui travaillent dans une boutique qui a été créée par la IWW. Et le fonctionnement, c'est une rotation systématique et obligatoire des postes. Donc, on ne peut pas avoir de spécialistes de l'Assemblée générale puisque tout le monde doit faire l'expérience de présider les assemblées générales et ça semble être un fonctionnement efficace. Aujourd'hui, une des principales campagnes de la IWW, c'est la syndicalisation des Starbucks aux États-Unis. Starbucks, qui est une compagnie multinationale qui laisse transparaître une compagnie de bonnes âmes et de d'échelle humaine, de capitalisme à visage humain et tout ça, ce qui prétendent, du moins dans leur propagande, Starbucks est foncièrement antisyndical dans un des clips qu'on a mis sur notre blog, par exemple. On peut voir, lorsqu'il y a eu une tentative de syndicalisation dans ce Starbucks, il y a quelqu'un qui est venu disant être le gérant et qui donnait des pizzas, des forfaits pour le cinéma, pour aller dans des bains de sauna, puis il disait qu'il avait pas besoin d'avoir des syndicats puis que ça allait baisser le salaire. Mais en fait, ça risque d'être un peu difficile de baisser les salaires du Starbucks parce que l'enjeu principal, la raison pourquoi est-ce que les travailleurs de la syndicalisation, pourquoi est-ce que les travailleurs du Starbucks veulent se syndiquer, c'est justement pour améliorer la qualité de leur travail et aussi, au fur et à mesure, travailler sur un projet de société. Voilà. Je voulais parler de l'abolition du salariat, puisque l'abolition du salariat, c'est un des slogans de la IWW. J'ai pas trouvé de réponse à ma question, à savoir c'était quoi la place de l'abolition du salariat au sein de la IWW aujourd'hui. Donc, en quoi est-ce que ça consiste, l'abolition du salariat? J'ai lu à quelques endroits que c'est une notion qui n'a pas vraiment... C'est quelque chose des principes marxistes qui est assez fondamental et qui n'a pas eu beaucoup d'expérience concrète d'abolition du salariat. Je pense que... Parce qu'en fait, le salariat est un peu inutile. On ne peut pas abolir le salariat dans une perspective marxiste sans abolir la propriété. Puisque, comme une citation que j'ai trouvée sur Internet de Salaire, Travail et Capital de Marx, le capital, donc l'argent, la valeur, la monnaie, n'existe pas dans sa... Pour, en fait, l'accumulation du capital ne sert pas à alimenter les travailleurs pour développer la production. En fait, l'accumulation de l'argent est plus utilisée pour maintenir la valeur de la marchandise sur le marché du travail pour que les capitalistes puissent continuer d'avoir de l'argent. Donc, l'objectif de la production du salariat, c'est vraiment pas de produire pour la société, mais c'est bien plutôt l'accumulation d'argent, donc le capitalisme. C'est ça, le capitalisme. Capital, argent, capitalisme, voilà. Donc, la généralisation du salariat, bien, c'est vraiment une des bases de la société capitaliste. Puis quand on parle que la population en général, la classe ouvrière, ne peut pas vivre sans vendre sa force de travail, c'est qu'aux yeux des compagnies, les travailleurs, c'est juste une ressource. C'est pourquoi est-ce que de revendiquer une augmentation de salaire, en bout du compte, ça va juste augmenter les prix de la consommation. C'est pourquoi est-ce que cette revendication-là à améliorer le salaire, ça va entraîner une augmentation des prix, puis ça va être tout le temps à refaire. Marx disait qu'il fallait s'attaquer non pas aux effets, mais aux causes qui entraînaient la paupérisation, c'est-à-dire la pauvreté. Donc, il ne faut pas s'attaquer à l'augmentation du salaire, il faut s'attaquer à l'abolition du salaire. Et l'abolition du salaire, dans le fond, c'est autonomiser la population et de collectiviser les moyens de production. À ma connaissance, ça a été réalisé dans les collectivités espagnoles, ou est-ce que dans les régions où est-ce que le syndicat anarchiste, la CNT, avait pris le contrôle avec la population, le salariat était interdit, mais les gens travaillaient pour eux-mêmes. Donc, abolir le salariat et continuer de travailler pour un patron, ça serait simplement du totalitarisme, je pense. Voilà. Donc, on vous laisse sur une chanson, Power in the Union, un classique, je pense que c'est Joe Hill qui l'a écrit, un membre de la IWW.
Puis, on va se revoir la semaine prochaine pour l'émission La Rage du Peuple.
Ciao.
Joe Hill's best song. Sorry, we almost missed the damn thing. The chorus is, there is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. I'll get you the chorus. There is power in a band of working folks when we stand. Would you have freedom from wage slavery and come join the grand industrial band? Or would you from misery and hunger be free? Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folks when we stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial Union brand. Oh, would you have mansions of gold in the sky and live in
Qu'est-ce que ça prend pour être un franc-tireur?
Du culot.
Oui, monsieur.
Du cran.
Un must.
De l'esprit critique.
Ben, c'est moi tout craché, ça.
Et beaucoup d'humilité. Hein, mon Richard?
Richard Martineau et Patrick Lagacé sont les francs-tireurs à Télé-Québec, mercredi 20h.
Les francs-tireurs.
La couleur Télé-Québec.
On peut tomber en amour avec un bruit, un son, une ambiance.